Il me semble que c'est une expérience qui est assez fondamentale. Peut-être plus l'expérience de Barcelone que l'expérience de Madrid, en ce qui me concerne, tout au moins d'après ce que je peux connaître. Parce qu'il me semble qu'à Barcelone, il ne faut pas uniquement se focaliser sur la victoire électorale de la liste, même si le nom, bien sûr, de la liste est quand même emblématique, Barcelone en commun. Pour nous, c'est effectivement un terme qui a une... Et pour moi, et pour Christian Laval, c'est un terme qui a une grande signification. Mais je crois qu'on a un petit peu tendance à oublier, en particulier en France, le travail de terrain qui a été accompli pendant 3 ou 4 ans, voire plus, dans cette ville et autour de cette ville, et qui permet d'expliquer ce qui s'est passé dans une très large mesure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un travail associatif extrêmement profond qui a irrigué les quartiers et la vie urbaine pendant des années et qui permet de comprendre qu'on a assisté à la constitution d'une liste qui est beaucoup plus large que par exemple le seul parti Podemos. Et pour nous aussi, c'est très important parce que si on réagit, si on réfléchit, si on pense, si on agit en termes de commun, il faut que ça se prolonge ou que ça se traduise, y compris dans la manière dont on investit le terrain électoral. Alors, ce qui me paraît donc très important à Barcelone, c'est le lien qu'il y a eu justement entre, en amont, tout ce travail qui est un travail de préparation en profondeur, d'irrigation de la vie de Barcelone même à travers ses associations, et puis d'autre part, le prolongement en termes de liste électorale. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez unique. C'est pour ça que je mettrai l'accent plus particulièrement sur l'expérience de Barcelone. Et je crois qu'en plus, bon, c'est une dernière remarque, mais ça me vient à l'esprit, ça plonge dans des racines qui sont extrêmement profondes dans l'histoire même de la Catalogne. Et je dirais qu'à la différence justement de Madrid, il y a une expérience qui relève de la vieille et vénérable tradition libertaire et qui a été extrêmement profonde dans les années 30, notamment en 1936. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas oublié. Ça ressurgit, c'est redécouvert sous une forme nouvelle, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Enfin, il me paraît.
Je ne peux qu'abonder là-dedans, et peut-être en insistant encore un peu plus sur justement l'enracinement associatif de ce non-parti qu'ils appellent Barcelone en commun, avec en particulier bon, la mairesse de Barcelone, Ada Colau. C'est en 2009, je pense, qu'a été créée la PAR, la plateforme pour les affectés de l'hypothèque, et qui a donné non seulement un ton sur le type de programme qui pourrait être fait à Barcelone, mais aussi un ton sur le mode de faire, de comment a été constitué, a été bâti ce programme. Quand on parle d'intelligence collective, c'est une intelligence collective. Souvent, on parle d'intelligence collective maintenant avec les nouveaux médias, etc. C'est une intelligence collective qui est vraiment basée sur une participation de la base, mais à partir du premier moment où ils ont décidé. Alors, c'est en effet des associations qui sont maintenant à la mairie de Barcelone. Les autres petits partis d'extrême gauche qui sont là, Podemos n'est pas du tout impliqué là-dedans. Podemos a appuyé, et Podemos a des problèmes un peu en Catalogne d'ailleurs, pour toutes sortes de raisons. Mais donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui... Ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est la manière dont maintenant est mise en place ce même mode de faire dans les premières mesures qu'on a faites. Ada Colau, quand elle est rentrée et qu'elle a fait son discours à la mairie, a fait un discours envers la mairie, reproduit sur écran géant dans Barcelone, surtout la place Saint-Jaume, la place en face de la mairie. Et Ada Colau a fait un discours qui était, écoutez, je suis, vous me connaissez, après avoir invité la Generalitat et l'ancien maire, etc., à travailler, à collaborer, etc., il dit, mais vous me connaissez, moi je suis une voisine comme vous. Et j'ai été habitué à travailler entre voisins et on va continuer à travailler entre voisins. Et si vous n'êtes pas content, vous me mettez dehors, vous nous mettez dehors. Et je pense que cette espèce de confiance qu'elle a établie, c'est absolument fondamental parce que les gens savent que c'est vrai. Et je pense que, enfin, peut-être que l'histoire nous dira quelque chose d'autre. Et quand elle est sortie, elle est allée sur la place. Où là, elle a eu, elle avait du mal à se frayer un chemin dans la foule. Et là, elle s'est sentie visiblement avec les siens. Et elle a refait un autre discours qui était, bah, écoutez, bon, pensez pas que ça va être facile, mais enfin là, je vois que bon, on est entre voisins, justement, et puis on compte sur vous, appeler à la responsabilité des gens, etc., pour continuer. Et en terminant, par quelque chose d'incroyable, parce que dans la campagne, elle avait appuyé beaucoup des grévistes de Movistar, qui était une compagnie de téléphonie, etc., et qui était bien entendu sur la place aussi, en les voyant, en terminant son intervention, en disant « il va falloir trouver un moyen d'appuyer ces gens-là ». Alors, c'est un mode de faire, je pense, qui bouleverse pas mal la politique qu'on le fait.
Oui, moi, moi aussi j'abonde dans le même sens, mais surtout sur la question justement de la transformation dans la manière de faire de la politique. Ce que je comprends, moi, par là, c'est que c'est ce mode de faire qui constitue le seul avenir digne de ce nom pour la politique. Je veux dire, s'il y en a un, il n'y a que celui-là. Il faut être assez précis. On a été tous les uns et les autres habitués à des décennies et plus que ça, des siècles de démocratie représentative, avec l'idée que le représentant, c'était quelqu'un d'inamovible, qui n'avait de compte à rendre qu'à la fin, donc lorsqu'il arrivait à la fin de son mandat, donc au bout de 4 ou de 5 ans, et à ce moment-là, si les gens n'étaient pas contents, ils votaient contre lui, il était démis de ses fonctions et quelqu'un d'autre le remplaçait. Mais dans l'intervalle, il faisait absolument tout ce qu'il voulait, sans avoir de compte à rendre. Et donc moi, je trouve extrêmement prometteur, en tout cas, je ne sais pas comment les choses vont se passer ensuite, mais je trouve extrêmement prometteur que quelqu'un qui vient d'être élu à ce poste-là dise à ceux qui l'ont élu, si vous n'êtes pas content, vous me mettez dehors. Parce que c'est une façon d'appeler, c'est une façon pour celui qui est élu, d'appeler ceux qui l'ont élu à faire preuve de responsabilité en exerçant un contrôle vigilant sur ses actes. Et ça, je trouve que c'est exactement ce dont on a besoin. La démocratie au sens véritable et plein du terme, ça passe par là. Il n'y a pas de démocratie, disons, digne de ce nom, s'il n'y a pas cette faculté que les dirigeants et les responsables eux-mêmes doivent encourager de course
avec elle, mais qu'elle porte avec une responsabilité. C'est derrière, c'est un programme qui a été fait en intelligence collective. Et premier geste. Deuxième geste, là maintenant, vous savez qu'elle a mis en place un plan de choc. Ça, je pense que c'est important aussi parce qu'on peut apprendre des communs. J'aimerais revenir là-dessus tout à l'heure, mais le deuxième geste par rapport à la transparence, c'est que ils ont un site, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir le site de Barcelona en Comum, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce que toutes les décisions sont mises sur le site absolument immédiatement, mais pas seulement les décisions, comment elles sont. Les décisions ont été prises, à quel moment et à quelle occasion. Et en ce moment même, par exemple, il y a des élections de district à Barcelone, les districts qui conforment chaque quartier de Barcelone. Et ça, c'est des élections tout à fait dans la logique d'une démocratie représentative, où elle appelle les gens, mais la manière dont elle appelle les gens à se présenter, et elle appelle les gens avec qui elle a travaillé à se présenter dans les districts. Non, et c'est cette invention-là, de manière transparente, qui est absolument incroyable, parce que là, elle est en train... un discours qu'on commence à entendre ici à ce même festival, de créer des nouvelles institutions qui vont rendre compatible une certaine forme de représentation avec une autre forme de participation. Mmh. Je veux dire, ces deux exemples-là me semblent absolument fondamentaux. Et ce que je voulais dire par rapport, peut-être que je peux enchaîner, je m'excuse là-dessus, mais sur ce qu'on peut apprendre aussi de cette campagne, de l'élection, etc., et du programme, c'est qu'avant de pouvoir faire un vivre en commun, il faut être capable de faire un vivre ensemble. Et Ada Colau s'en vient avec un programme qui dit, dans les 3 ou 4 premiers mois, on a un plan de choc. Et notre plan de choc consiste à rendre la dignité aux gens. Ça veut dire, on travaille sur le logement, on travaille sur l'emploi, on travaille sur le prix des transports, on travaille sur le prix de l'électricité, de l'eau, etc. Avec des mesures très très concrètes, avec des budgets complètement transparents. Cet argent-là, on va le prendre là, on va le prendre là, on va le prendre là. Et donc, essayer de constituer une espèce de convivialité qui soit basée, elle, sur les droits fondamentaux des gens. Et ça, je pense que c'est important quand on parle de commun et qu'en général on parle de commun de manière très, très théorique, etc. Là, c'est un laboratoire, justement, où on est en train de mettre les gens sur le même pied pour qu'ils soient eux-mêmes capables de contribuer. D'abord.